J'aimerais parler ce matin sur Élie au torrent de Kérit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Il est écrit « Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Voilà, nous connaissons bien Élie dans la parole de Dieu, c'est un prophète de l'Ancien Testament, dont le nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Élie est souvent cité d'ailleurs dans le Nouveau Testament, comme un prophète puissant, par exemple, dans Luc chapitre 1, verset 17, il fait référence ici à Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste était un petit peu comme le successeur d'Élie. Ce que Élie était dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste l'a été dans le Nouveau, il a été celui qui a ouvert la voie, qui a annoncé la venue du Messie. Et c'est dit de Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. En faisant référence à ce texte que nous avons lu, Élie le Tishbite, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Élie apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament, comme par exemple lors de la transfiguration, ce moment où Jésus a été en communion avec Dieu et son vêtement s'est transformé d'une blancheur qu'on ne peut pas reproduire sur la terre. Et il y avait là, à côté de Jésus, Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. La loi et les prophètes. Moïse et Élie autour de Jésus. Et Élie, donc, a été vraiment un prophète dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, très important. Et il va être utilisé dans des jours de dégradation spirituelle. Car à l'époque du roi Akab, donc on est dans 1 Roi chapitre 17, c'est le roi Akab qui est le roi d'Israël, on sait que c'était un mauvais roi, un roi qui était animé de méchanceté et aussi qui avait pour épouse Jézabel qui était une femme sanguinaire, une femme méchante qui faisait tuer les prophètes de Dieu. Donc il vivait dans cette opposition. On peut dire que Élie, c'est le prophète de la confrontation avec le mal, parce que à l'époque, eh bien, on adorait des veaux d'or, on adorait des faux dieux. Akab détournait le peuple de Dieu, et parfois nous vivons aussi dans un contexte défavorable. Je ne sais pas quelle est la situation dans votre famille, mais je connais des situations où il y a eu un rejet quand vous avez accepté le Seigneur, eh bien votre famille vous a rejeté. Et quelquefois, il faut vivre ces temps de confrontation, d'opposition. Alors, Paul dit, mais ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Nous savons que derrière cette opposition, il y a des puissances invisibles, des puissances spirituelles qui empêchent, qui font obstacle, qui font opposition à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas nous décourager, mais prier, fléchir les genoux, nous adresser à Dieu, prier pour notre conjoint afin qu'il se tourne vers le Seigneur, prier pour nos enfants, parce que peut-être ils sont rebelles actuellement, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu, mais nous savons que c'est l'Esprit qui convainc de pécher, et pour toucher un cœur, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Aucune parole ne suffira, mais l'Esprit de Dieu va faire son œuvre, parce que le cœur est dur, le cœur est résistant aux choses de Dieu, mais vous savez, le Saint-Esprit, il sait exactement les mots qui vont toucher le cœur de la personne. Alors j'aimerais voir quatre points dans ce passage. Le premier, c'est Élie sert Dieu. C'est écrit qu'il est l'un des habitants de Galaad. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Verset 1. Et dans son service pour Dieu, il va être contraint de confronter Akab. Akab qui est le roi méchant. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Soit on sert Dieu, soit on sert le monde. Et comme il a choisi de servir Dieu, il est en confrontation spirituelle. Il est en confrontation spirituelle avec l'esprit d'Akab. Qu'est-ce que c'est l'esprit d'Akab ? C'est l'esprit de Baal, c'est l'esprit des faux dieux, c'est l'esprit du rejet de Dieu, parce qu'on ne peut pas servir Dieu et le monde. On ne peut pas servir Dieu et Baal. Il y a forcément opposition. Alors concernant le service de Dieu, il y a premièrement l'autorité spirituelle qui lui est donnée, car Élie ne sert pas avec sa propre force, mais il a reçu de Dieu une onction, une autorité pour avancer. Et c'est comme ça qu'il est envoyé. D'ailleurs, Paul dit dans le Nouveau Testament que nous faisons fonction d'ambassadeur. Ambassadeur pour Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, nous, chrétiens, partout où nous allons, nous représentons Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Moi, je suis citoyen français. En même temps, j'ai la double nationalité. J'ai la nationalité française et j'ai la nationalité suisse. Mais j'ai une triple nationalité parce que j'ai la nationalité du royaume de Dieu aussi. Mais c'est la plus importante pour moi. Parce que je suis suisse par mon père et je suis français par ma mère. Mais ça, c'est terrestre. Et au ciel, où est-ce qu'on va mettre les Suisses et les Français au ciel ? Ça n'existera plus, n'est-ce pas ? Nous serons tous dans le royaume de Dieu, membres du royaume de Dieu. Voilà mon identité. Et quand je vais quelque part, mon passeport, c'est « j'appartiens à Christ ». Je suis enfant de Dieu. Je suis membre du royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on fait fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, il représente donc son pays à l'étranger. On est un petit peu à l'étranger dans le monde, quelque part. Ce n'est pas notre patrie. La Bible dit que notre patrie à nous, elle est céleste. Mais on est là, on est dans le monde. Et on est des ambassadeurs, on représente notre pays. Notre pays, c'est le ciel. Et aussi, un ambassadeur, il est là pour promouvoir la culture de son pays. Ça veut dire que nous sommes des témoins où nous allons faire connaître bien comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit ? Comment nous pouvons vivre chrétiens aujourd'hui ? Voilà ce que c'est les ambassadeurs. Voilà ce que nous faisons en tant qu'ambassadeurs. Eh bien, on peut dire qu'Élie était un ambassadeur de Dieu à son époque. Et Jésus nous donne une autorité. De même qu'Élie a reçu de Dieu l'autorité pour confronter Akab. Jésus nous a donné une autorité pour confronter les puissances spirituelles. C'est dit dans Luc chapitre 10, verset 19. L'autorité, elle n'est pas donnée pour juste s'asseoir et rester tranquille. L'autorité, elle nous est donnée pour agir, entrer dans un combat. Luc 10, 19, « Voici, dit Jésus, je vous ai donné le pouvoir » que vous pouvez traduire aussi « autorité », c'est dans d'autres versions traduit ainsi. « Je vous ai donné le pouvoir » ou je pourrais dire « je vous ai donné l'autorité » de marcher, voyez, ça c'est l'action. Nous ne recevons pas une autorité pour la garder tranquillement à la maison sans agir. C'est pour marcher, pour faire quelque chose, pour marcher ou pour confronter les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Nous savons qui est l'ennemi, c'est Satan, et rien ne pourra vous nuire. Donc cette autorité, elle nous est donnée dans un but précis, c'est pour confronté, parce que Jésus sait qu'il y aura de l'opposition dans le monde. Jésus a dit même, vous aurez des tribulations, vous aurez beaucoup d'opposition dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il nous a donné l'autorité nécessaire pour confronter, non pas directement les gens, mais la puissance spirituelle qu'il y a derrière ces personnes, en l'occurrence derrière Akab. Il y a la puissance spirituelle des faux dieux, des dieux de Baal, des dieux d'Astarté, des dieux de l'époque. C'était les confrontations. Donc, première chose que l'on voit pour le service de Dieu, c'est l'autorité. La deuxième chose, c'est le renoncement. Car Élie a dû renoncer pour servir Dieu. Il a renoncé à certains avantages. Dans Matthieu 16, 24, Jésus le dit. Il n'y a pas d'autre voie pour le service, si on veut devenir un disciple, que le renoncement. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est là toute la difficulté, parce que souvent, nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et nous ne pourrons pas suivre Jésus sans le renoncement. Beaucoup de gens veulent bien suivre Jésus, sont prêts à lui donner leur vie et tout, mais quand il s'agit de renoncer à eux-mêmes, c'est plus difficile. C'est un peu comme si on fait de la randonnée. On fait, imaginons, on part pour 10 km, mais que je prends sur mes épaules un sac de 50 kg. Et je ne pourrais pas avancer bien. Ça va être lourd, ça va être difficile. Mais si je renonce à ce sac, si je m'en débarrasse, eh bien, je vais pouvoir avancer. Il y a des choses qu'on doit renoncer pour avancer. En fait, pour l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Pour être efficace, il va falloir renoncer à certaines choses dont on s'est encombré, qui affectent notre vie, qui détruisent finalement notre relation avec Dieu, qui sont nocives pour notre âme. Paul va dans le même sens lorsqu'il explique que pour vivre vraiment en Christ, il faut mourir. Il faut mourir à cette vie terrestre. C'est un des plus beaux versets de son épître aux Galates, chapitre 2, et au verset 20, lorsque Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Ça, c'est un des versets les plus profonds de la parole de Dieu. « J'ai été crucifié avec Christ ». Quand on médite sur ce verset, on réalise déjà la puissance de la croix et l'importance de la mort à soi-même. « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » On connaît bien Saul, Saul de Tarse. Saul de Tarse qui était un persécuteur de l'Église. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et qu'il était dans une optique de destruction et de haine, mais Dieu lui a fait grâce et il a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Il a vu une vision de Jésus. Jésus lui a parlé. Alors il n'a plus douté. Et Jésus lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire, ne résiste plus. Je t'appelle. Je veux te sauver. Et il te serait dur de résister. Et puis à ce moment-là, il a abdiqué, il a accepté le Seigneur. Et ce Saul de Tarse, qui était orgueilleux, qui était animé d'un mauvais état d'esprit, un état d'esprit de haine, de violence, eh bien, il est mort. Il est mort, en fait, spirituellement. Son ancienne nature est morte, ce Saul est mort. Et c'est Paul, l'apôtre Paul, qui a commencé à vivre. C'est-à-dire, Paul, ça signifie petit. Et si Saul a choisi de se faire appeler Paul après sa conversion, c'est pour montrer que maintenant, ce n'était plus l'ancien. L'ancien Saul, il est mort, et maintenant c'est le nouveau. Il s'appelle Paul, et c'est celui-là maintenant qui vit dans la foi. C'est pour ça qu'il dit, ma vieille nature a été crucifiée avec Christ. C'est comme si je dis, Saul est mort, et maintenant si je vis, c'est Paul qui vit, c'est je vis par la foi, dans une nouvelle dimension, une dimension spirituelle. Et c'est là la clé de la victoire sur le péché. Car nous ne pouvons pas triompher du péché si nous ne sommes pas morts avec Christ à la croix. Car le péché aura toujours le pouvoir sur nous. Mais si on est mort, si on a été crucifié avec Christ et que c'est la nouvelle nature qui prend la vie, cette nouvelle nature est forte, est animée des sentiments de Dieu et peut résister au péché. L'ancienne nature ne peut pas résister au péché. C'est pourquoi sans passer par ce verset, chapitre 20, chapitre 2 et le verset 20 de l'épître aux Galates, on ne peut pas vivre une vie chrétienne authentique. Ce n'est pas possible si on n'a pas été crucifié avec Christ. Si notre ancien moi n'est pas mort, si on n'a pas renoncé à toutes ses œuvres charnelles, on ne pourra pas vivre le nouveau moi, c'est-à-dire ce Paul, ce petit qui est ressorti, mais c'est devenu l'apôtre Paul, un serviteur de Dieu qui a jailli, qui a pu s'exprimer, s'épanouir, mais il a fallu d'abord renoncer à lui-même. Et puis la troisième chose qu'on voit pour les serviteurs de Dieu, c'est l'humilité. Car être serviteur signifie prendre la place de l'esclave. On n'en a pas toujours envie. D'ailleurs, je remarque que même aucun disciple n'avait envie de prendre la place de l'esclave lorsqu'il a fallu laver les pieds les uns des autres. Le soir de la Pâque, les disciples, ils voulaient tous être des serviteurs. Ils voulaient tous servir Jésus, être au service de Dieu. Oui, vouloir servir Dieu, c'est très bien. Mais servir Dieu, c'est aussi servir les autres. Et quand on veut juste servir Dieu et qu'on ne veut pas servir les autres, on n'est pas dans la place du serviteur. On est à côté du plan de Dieu. Alors, vouloir servir Dieu, c'était une bonne chose, mais la question que se posaient les disciples, c'était lequel parmi nous est le plus grand parmi ses disciples. Ce n'était pas la question. La question que Jésus pose, c'est celui qui veut être le plus grand, qu'il soit d'abord le plus petit et le serviteur des autres. Et ça, ils n'avaient pas compris. Jésus, donc, a pris un linge, il s'est agenouillé et il a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que c'était normal? Non, ce n'était pas à Jésus de le faire, mais personne ne le faisait. Jésus l'a fait, il a pris, en fait, la place du serviteur. Mais ça montre que chez Jésus, il y avait un état d'esprit de serviteur, quelqu'un qui aime rendre service, quelqu'un qui est disponible, même pour des tâches humbles, des tâches simples, à se rendre utile. Eh bien, il y a toujours des choses à faire dans l'œuvre de Dieu, et ce n'est pas forcément toujours des choses en vue, des choses voilà, où on va être gratifié. C'est parfois des choses un peu cachées, un peu humbles, mais elles sont tout à fait au service de Dieu et au service des autres. Et il ne faut pas déconnecter le service de Dieu du service des autres. Car si vous voulez servir Dieu, il faudra forcément s'humilier et être à la disposition des autres pour faire du bien autour de vous. Un deuxième élément dans ce texte, après la vie du serviteur d'Élie, le deuxième élément que je vois, c'est que Élie est conduit par Dieu. Il entend la voix de Dieu au verset 2. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit. Comment est-ce que c'est possible d'entendre la voix de Dieu? Eh bien, en étant en communion avec Dieu, c'est-à-dire dans la prière, on peut ressentir dans notre cœur des directions, sa pensée, sa voix. Pars d'ici, ce n'est plus ta place. Il faut que tu ailles plus loin. Et il le ressent comme une pensée très forte qu'il va falloir partir. Alors, quelquefois, Dieu nous donne cette pensée de quitter un lieu bien connu pour aller vers l'inconnu. Et cela, c'est un petit peu perturbant. Et Élie va devoir bien obtempérer. Mais là où Dieu nous conduit, c'est toujours le meilleur pour nous. Le Seigneur n'a pas changé. Vous connaissez un des psaumes les plus célèbres, psaume 23, qui nous parle que le bon berger nous conduit comme des brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On voit partout donc que Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous diriger. Donc il nous parle, il met dans notre cœur des pensées, des directions. Encore faut-il les entendre. Dans la vie chrétienne, il y a deux possibilités. Soit on est conduit par l'Esprit de Dieu, comme c'est le cas d'Élie. Il entend sa voix et il fait ce que Dieu demande. Soit on est conduit par ses propres impulsions, par ses choix personnels, ce que dans le Nouveau Testament, c'est appelé la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, donc, c'est cette nature humaine pécheresse qui conduit le croyant à la désobéissance, à faire des mauvais choix, à fréquenter les mauvaises personnes, à aller dans les mauvais endroits, à lire les mauvaises littératures. Donc ça, c'est la chair qui va pousser dans le vent contraire. Et la chair n'aime pas du tout être conduite. Elle aime conduire. Elle veut diriger. C'est un peu comme si vous êtes au volant de votre voiture. C'est vous qui conduisez la voiture. Et il y a un passager à côté de vous qui, lui, veut aussi conduire et qui veut prendre votre volant et tourner à gauche ou tourner à droite. Mais c'est vous qui êtes le conducteur, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'autre. Mais la chair, c'est ça. La chair, elle n'aime pas se laisser conduire. Elle veut prendre le volant et conduire votre vie dans les mauvais endroits. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, j'ai été crucifié avec Christ. Il faut que celui-là, cette chair-là, qui veut prendre le contrôle, elle soit mise hors d'état de nuire, qu'elle ne puisse pas conduire à notre place ou à la place de l'esprit, là où il veut nous emmener. Sinon, ça va être la catastrophe. Alors, nos décisions ne sont pas toujours inspirées parce qu'on n'a pas pris le temps de prier. Il est dit parfois dans la Bible que tel roi ne consulta pas l'Éternel et il a eu les conséquences de ses choix. Et si nous ne consultons pas Dieu, nous savons que eh bien, ça sera une folie. Alors des fois, consulter Dieu, vous avez des fois des solutions qui vous étonnent, qui vous dérangent. Mais c'est la sagesse de Dieu est parfois une folie pour le monde. Regardez comment, conduit par Dieu par exemple, les Hébreux ont reçu l'ordre de faire le tour de cette grande ville de Jéricho en chantant, en sonnant de la trompette, 7 jours de suite. Ce n'était pas une tactique tellement militaire, c'était ridicule aux yeux des habitants de Jéricho, cette histoire-là. Et pourtant, c'était la sagesse de Dieu, car le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour et les murailles se sont écroulées. Mais c'était conduit par Dieu. Conduit par Dieu, Jonas est allé prêcher à Ninive, c'était une ville païenne, c'était le seul croyant. Il a annoncé ce message de la repentance, de la foi. Et la ville entière s'est convertie. Il y a eu un puissant réveil, mais c'était insensé de faire cela, et pourtant c'était conduit par Dieu. Conduit par Dieu, Philippe a quitté ce réveil à Samarie, dans cette ville où il y avait beaucoup de gens qui venaient au Seigneur. L'Esprit lui met à cœur d'aller sur un chemin désert. C'était conduit par Dieu. Ça n'avait pas de sens au niveau rationnel, et pourtant il y avait un Éthiopien, eunuque, c'est-à-dire un ministre, qui passait ce jour-là, à ce moment-là, sur ce chemin. Conduit par Dieu. Conduit par Dieu, on fait des choses étonnantes. Paul, par exemple, voulait dans son esprit évangéliser l'Asie. Il était déterminé dans sa volonté d'aller par toutes les nations, évangéliser toute la terre. Et puis, conduit par l'Esprit, non, c'est la Macédoine, c'est-à-dire l'Europe. Il a bifurqué parce que l'Esprit l'a conduit d'une autre manière. Et puis, il y a eu la ville de Philippe, qui a été ouverte à l'Évangile, et puis Thessalonique, et puis d'autres villes dans ce secteur, parce qu'il a été conduit par Dieu. On pourrait mentionner beaucoup de croyants qui ont pris des risques, ils ont fait des choix, mais ils étaient conduits par Dieu. Dieu cherche encore, en fait, des personnes qui vont se laisser conduire, comme Élie. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi au torrent de Kérit. Voilà la direction pour la vie d'Élie. Mais il fallait qu'il se laisse conduire. Alors, comment recevoir la direction de Dieu ? Eh bien, nous avons là le livre de Dieu qui nous parle de sa parole. Nous devons le méditer, mais aussi prier et être sensible à la voix du Saint-Esprit qui met dans notre cœur des directions, des pensées. Et encore faut-il les mettre en pratique. Parce que si nous n'obéissons pas à la voix de l'Esprit, eh bien, l'Esprit cesse de nous parler. Vous savez, l'écoute spirituelle, c'est un petit peu comme les ultrasons. Il y a les chats ou les chiens sont capables d'entendre des sons bien au-delà de ce que nous entendons. Ils réagissent avant nous-mêmes. On ne sait pas ce qui se passe. Ils entendent des sons qui sont au-delà de nos capacités. Pour nous, chrétiens, c'est pareil. Nous avons une audition supérieure à l'audition humaine. C'est l'audition spirituelle. Et nous pouvons entendre les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu qui vont nous être révélés dans notre cœur. Et pour cela, il faut un cœur humble, c'est-à-dire un cœur qui a été brisé de son orgueil, qui a renoncé à sa suffisance, à cette dureté, un petit peu comme Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Son cœur a été changé. Et là, il était réceptif, et son oreille s'est ouverte, et il a entendu les sons de Dieu. Un troisième point dans ce texte, c'est l'action. Car une chose est d'entendre la parole, et c'est au verset 5, autre chose est d'obéir. Verset 5, il partit, donc Élie, et il fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir au torrent de Kérit. Voilà, tout va se jouer ici dans ce troisième point, c'est-à-dire on peut très bien entendre la voix de Dieu et résister à faire ce qu'il nous demande. On pourrait dire par exemple, oui, c'est bien, mais j'obéirai plus tard. Ou je n'ai pas le temps, je me déciderai plus tard pour le Seigneur. Ou je ferai ce qu'il m'a demandé plus tard. Bref, on cherche à négocier. C'est arrivé à plus d'une personne. Lorsque Jésus était sur cette terre, des disciples disaient qu'ils voulaient le suivre partout où il irait. Par exemple, un a dit, « Seigneur, je veux bien te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Voilà une excuse. Mais ça pouvait durer très longtemps, cette affaire, parce que il n'est pas certain que le père était mort, peut-être qu'il était mourant. Bon, s'il était mort, ça durait déjà un certain temps, les obsèques ça pouvait durer une semaine. Et puis, il n'était pas certain que, avec le temps, il aurait vraiment fait ce qu'il disait. C'est pourquoi Jésus dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts ». Plus on repousse à demain, parce qu'on a toujours des excuses, et plus finalement, on abandonne les choses de Dieu. Alors, la parole de Dieu peut paraître parfois dure, mais la parole de Dieu nous confronte aussi à notre propre réalité, nos propres manquements. Quand on ne veut pas obéir, on a toujours des excuses. Il y a un proverbe qui dit « La route de demain mène à la ville de jamais ». Et c'est vrai que si on dit toujours « Je ferai demain, je reporterai plus tard, j'ai entendu ce que Dieu a dit, mais je ne veux pas le faire », eh bien nous n'irons jamais nulle part. Il y a un homme qui s'appelait Noé, à qui Dieu a demandé de construire un grand bateau. Là encore, il a reçu une révélation extraordinaire que Dieu allait détruire l'humanité, mais qu'il allait sauver Noé et sa famille, ainsi qu'un certain nombre d'animaux. Et il lui a donné les directives pour construire une immense arche, 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Noé avait juste à obéir à ce qu'il avait reçu. Mais il fallait le faire, sinon ça risquait de couler. Il fallait qu'il note bien toutes les instructions. Dans Genèse 6, 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Ça, c'est l'obéissance. On entend, et maintenant, il faut le faire. Qu'est-ce qui se serait passé si Noé avait dit « Je trouve que c'est un peu trop long, je vais raccourcir de 10 coudées » ou « Je trouve que les animaux, ça ne va pas, je ne vais pas en prendre autant que ce qui m'est demandé ». Ça aurait été une catastrophe. Peut-être tout aurait coulé s'il n'avait pas obéi, s'il avait fait que la moitié, s'il avait fait une partie seulement de ce que Dieu dit, ça n'aurait pas fonctionné. Il nous faut donc prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voyez, Josué a eu du succès en Canaan pour une raison. Josué, chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir. » On est toujours dans l'action, l'obéissance à ce que Dieu demande, « fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Notre succès, il ne vient pas des capacités de ce que Dieu a mis simplement en nous, mais il vient de notre soumission à la parole de Dieu. Revenons à la parole. Comme Élie, bien, il a entendu la voix et il est allé par obéissance là où Dieu le conduisait. On a un exemple négatif, c'est celui de Saül, qui lui avait pourtant été choisi pour être le roi d'Israël et qui avait potentiellement des capacités pour remporter des victoires. Il a eu de nombreuses victoires contre des ennemis du peuple de Dieu, mais à un moment donné, il a offert un sacrifice lui-même alors que c'était interdit au roi. Il a donc désobéi ouvertement, mais par crainte. Samuel était en retard. Il avait dit qu'il viendrait pour offrir le sacrifice. Il n'était pas là, alors il a eu peur. Alors il a désobéi à la parole en offrant lui-même un sacrifice qu'un roi ne doit pas offrir. Donc il a fauté. Et la raison du rejet de Saül, de cette sanction qu'il a été évincé et que David a été choisi, c'est à cause de sa désobéissance. Il n'a pas pris la parole de Dieu au sérieux. Bien, pour nous, c'est aussi un exemple dans l'Ancien Testament qu'il faut veiller, c'est que nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Et le quatrième point que je trouve dans ce texte, c'est que Dieu pourvoit de manière miraculeuse à nos besoins. Élie, donc, était un serviteur, il a entendu, dirigé par Dieu, il a obéi. Ça, c'était sa part. Eh bien, la part de Dieu, c'est maintenant l'action surnaturelle, le miracle, de manière assez inattendue. Dieu a envoyé des corbeaux, que ce soit le matin avec du pain de la viande, ou le soir, encore avec du pain de la viande, juste la nourriture nécessaire pour son maintien et que Élie puisse continuer à vivre normalement. Il y a un parallèle qu'on peut faire entre ces corbeaux qui venaient le matin et le soir et la manne dans le désert, parce que le peuple avait été 40 ans dans le désert et ils avaient tous les jours la manne qui était pourvue avec aussi des cailles. Ils avaient donc toute la nourriture de Dieu qui était pourvue, et on voit que Dieu veille sur son peuple. Je note quand même dans ce texte que Dieu a utilisé des animaux impurs, parce que les corbeaux sont des animaux, selon la loi, qui étaient méprisés, qui étaient des animaux impurs. Ce qui montre que Dieu est souverain et qu'il peut utiliser les choses faibles ou considérées comme inutiles ou méprisées dans ce monde pour servir à son œuvre. Les corbeaux étaient impurs aux yeux des Juifs. Eh bien, Dieu, il a utilisé justement des corbeaux pour nourrir son serviteur. Élie devait s'attendre à Dieu chaque jour, à chaque repas. Et ça nous apprend à faire confiance à Dieu. Car nous aimons bien avoir de l'avance et se dire, eh bien, si j'ai beaucoup, beaucoup amassé, je serai tranquille. Mais Dieu nous apprend à compter sur lui à chaque jour. Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous ne pouvons pas avoir toujours tout d'avance. Nous ne savons pas comment les choses vont tourner. Dieu, parfois, agit au dernier moment. Mais nous devons dire, bah oui, Seigneur, tu n'as pas agi encore aujourd'hui, mais je te fais confiance. Je sais que tu as la situation en main et que tu vas agir. Et des fois, c'est au dernier moment, mais il veille sur nous, comme sur ses enfants. J'ai relevé dans le psaume 34 cette promesse. Craignez l'Éternel, vous ses saints, c'est-à-dire les croyants. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que Dieu est à la première place dans notre vie? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui cherchent l'Éternel, tout cela c'est notre part, c'est ce qu'Élie faisait. Eh bien alors, nous sommes certains que Dieu prend notre situation en main et que nous ne manquerons de rien. Peut-être vous avez obéi à Dieu, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Comment est-ce que nous réagissons? Parce que nous imaginons comment Dieu va agir. Mais Dieu nous surprend en agissant d'une autre manière. Et souvent, il agit d'une manière différente de ce que nous, on aurait aimé ou espéré. Que faire? Ne vous laissez pas gagner par le découragement, car l'ennemi utilisera toujours ces choses pour vous décourager ou vous montrer que Dieu n'a pas répondu, que Dieu vous a oublié, que Dieu ne s'intéresse pas à votre situation. Au contraire, ce matin, j'aimerais rappeler que Dieu connaît nos difficultés, il connaît nos besoins, mais c'est lui le maître, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. Alors, faisons-lui confiance. Et je suis certain que s'il y a eu des corbeaux pour Élie, il a aussi des corbeaux en réserve pour ses enfants qu'il aime et qui le craignent et qui lui font confiance. Ils vont revenir, ils vont venir avec le nécessaire. Et on peut dire merci Seigneur et déjà dire oui Seigneur, nous pouvons te bénir parce que tu prends soin de chacun de nous. Tu as pourvu jusqu'à aujourd'hui et nous savons que tu pourvoiras demain. C'est pourquoi nous chrétiens, nous ne vivons pas dans l'inquiétude. Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Nous ne vivons pas dans l'inquiétude, dans l'angoisse, mais dans la confiance que Dieu agira, qu'il prendra soin de nous et qu'il pourvoira à nos besoins. Jésus dit, le lendemain aura soin de lui-même. Veillons et prions, faisons confiance au Seigneur. En conclusion, Élie, serviteur de Dieu, était un homme de la même nature que nous, mais il a dû confronter le péché, il a dû confronter les Baals, et ça, nous ne manquerons pas d'y passer en tant que chrétiens. Nous devons confronter la mentalité du monde qui est un peu inspirée par Baal, les faux dieux, le péché, la mentalité de l'orgueil, de l'amour de l'argent, de l'égoïsme. Elle existe, elle est autour de nous. Nous devons la confronter, c'est pourquoi nous avons reçu l'Esprit qui nous donne cette force pour confronter ces puissances qu'il y a derrière même des opposants et surtout partir là où Dieu nous demande d'aller, c'est-à-dire nous laisser conduire, accepter que Jésus prenne le contrôle de notre vie. Sans cette vie livrée entre les mains de Dieu, comme Élie l'a fait, nous ne pouvons pas nous épanouir, être heureux. Car il y a toujours des positions spirituelles à prendre. On doit rester sensible à l'esprit. La fin se termine avec le verset 7. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, Élie ne pourra plus rester là où Dieu l'a conduit. Et qu'il faut être toujours sensible à la voix de Dieu. Peut-être on est là pour un temps, dans cette direction, et puis le torrent est à sec, et bien on va voir que Dieu va le conduire ailleurs. Et c'est ainsi que Dieu va nous conduire d'étape en étape. On n'est pas appelé à rester toute sa vie ici, dans cet endroit. Il y a d'autres aventures, d'autres étapes plus loin, une nouvelle destination. Et c'est ça aussi, suivre Dieu. C'est accepter de bouger, c'est accepter d'être chamboulé, d'être changé, peut-être de faire des choses qu'on n'avait pas encore fait, d'obéir à des paroles auxquelles on avait encore résisté. Voilà, il faut bien se soumettre à Dieu. Prions un instant. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, cet exemple de cet homme de Dieu, serviteur, qui a préféré obéir à Dieu et confronter les puissances spirituelles qui étaient derrière ce roi Acab. Merci pour l'équipement du Saint-Esprit que tu nous as donné pour confronter aussi ces puissances. Et au nom de Jésus, nous prions pour que ton Église marche dans cette vie de l'Esprit, dans cette vie de victoire sur le péché, sur l'opposition du monde de ténèbres, sur ces luttes, ces combats que nous devons livrer contre les puissances impures. Mais Jésus, nous savons que tu es avec nous et que tu nous soutiens. Merci de nous fortifier encore, de donner, Seigneur, à chacun ta paix, ta grâce, de renouveler nos cœurs dans ta présence et de permettre que nous puissions vraiment nous soumettre à ta volonté, nous débarrasser de cette vie orgueilleuse, de vanité, et chercher ce qui te plaît, qui t'honore, dans le nom de Jésus. Amen.